Deux jours plus tard, on célébrait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus y assistait. Jésus avait aussi été invité au mariage avec ses disciples. On voit là que le vin se mit à manquer. La mère de Jésus lui fit remarquer, « Ils n'ont plus de vin. » « Écoute, lui répondit Jésus, toi ou moi que cette affaire concerne, mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre que les Juifs utilisaient pour les ablutions rituelles. Chacune d'elles pouvait contenir entre 80 et 120 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Maintenant, leur dit-il, prenez-en un peu et allez la porter à l'ordonnateur du repas. » Ce qu'ils firent. L'ordonnateur du repas goûta l'eau qui avait été changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, alors que les serviteurs le savaient, puisqu'il avait puisé l'eau. Aussitôt, il fit appeler le marié et lui dit, « En général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as réservé le bon jusqu'à maintenant. » C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, mais ils n'y restèrent que quelques jours. Le jour où les Juifs célèbrent la fête de la Pâque était proche, et Jésus se rendit à Jérusalem. Il trouva dans la cour du temple des marchands de bœufs, de brebis et de pigeons, ainsi que des changeurs d'argent installés à leur comptoir. Alors il prit des cordes, en fit un fouet, et les chassa tous de l'enceinte sacrée avec les brebis et les bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs et renversa leur comptoir. Puis il dit aux marchands de pigeons, « Ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. » Les disciples se souvinrent alors de ce passage de l'Écriture. « L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, est en moi un feu qui me consume. » Là-dessus, les gens lui dirent, « Quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?»« Démolissez ce temple, » leur répondit Jésus, « et en 3 jours, je le relèverai. » « Comment ? » répondèrent-ils. Il a fallu 46 ans pour reconstruire le temple, et toi, tu serais capable de le relever en 3 jours ? » Mais en parlant du temple, Jésus faisait allusion à son propre corps. Plus tard, lorsque Jésus fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Prions. Père, merci pour ce passage de ta parole. Nous te prions de nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir Jésus plus clairement, comprendre qui il est, ce qu'il est venu faire. Aide-nous par ton esprit, nous te prions. En son nom. Amen. Bon, c'est la rentrée, les enfants ont repris l'école. La question, je crois qu'avait beaucoup à ce moment, c'est, alors, ma maîtresse, mon maître, il ou elle sera comment? Ça va être comment cette année à l'école? Est-ce qu'il ou elle va être strict? Est-ce qu'on va devoir travailler dur? Est-ce que, on pourrait chuchoter un peu avec le copain, ou est-ce que ça, ça passe pas? Comment ça va être, en fait, sous son autorité? Ce sera comment dans ma classe cette année? Au début de l'évangile de Jean, Jésus est révélé comme le Messie, ce roi sauveur envoyé par Dieu. Mais si Jésus est le roi, alors ça relève la question, mais la vie sera comment sous son règne? Il sera comment comme roi. Et nous venons d'entendre deux épisodes où le comportement de Jésus n'est pas du tout comme les stéréotypes qu'on se fait de lui. Donc, premier, Jésus, il fait en sorte qu'une fête ne s'arrête pas de façon prématurée, quand le vin commence à manquer. Ce n'est pas le Jésus pieux, hautement spirituel, qui est détaché de la vie ordinaire. Et dans ce deuxième épisode, nous voyons Jésus qui se met en colère, qui devient même violent. Ce n'est pas le doux Jésus qui est toujours gentil, qui ne froisse personne. Quel contraste entre ces deux événements. Et pourtant, c'est la même personne, c'est le même Jésus. Et ce qu'il fait ici, en fait, c'est révéler qui il est de deux façons différentes. Et donc, l'idée principale que je pense que nous voyons dans ce passage, Jésus, le Messie, est venu apporter la joie et le jugement. Jésus, le Messie, est venu apporter la joie et le jugement. Donc d'abord, la joie. Jésus, le Messie, est venu apporter la joie. Je ne sais pas si vous voyez l'image, on remplit les grandes jarres d'eau. Alors, c'est un des miracles de Jésus que tout le monde a entendu, tout le monde a entendu parler. Même ceux qui n'ont jamais lu la Bible, si on dit « changez l'eau en vin », hein, les gens savent ce que ça veut dire. Et peut-être que vous savez déjà qu'à l'époque, les fêtes de noces, c'était une grande affaire. C'est pas simplement une soirée, mais ça pouvait durer toute une semaine. C'était vraiment, il y avait un moment de fête, de musique, de danse, vraiment une grande célébration. Et avec beaucoup de gens, on voit qu'on l'a invité largement parce que c'était pas que la famille, les amis. La mère de Jésus était là, et aussi Jésus et ses disciples aussi. Et manquer de vin à une fête de noces, c'était la catastrophe. Parce qu'on ne pouvait pas simplement sortir à Monoprix à acheter une centaine de bouteilles. Non, ça voulait dire que la fête, ça s'arrête. On ne peut plus vraiment continuer. Ça aurait apporté la honte à la famille du marié. Ça aurait été la honte totale. Et quand Jésus entend ce qui s'est passé, sans faire de grand bruit, de façon très discrète, il change une grande quantité d'eau en bon vin. Si on regarde le verset 6, chacune des six jarres pouvait contenir entre 80 et 120 litres. On est autour de 600 litres de vin. 600 litres de vin. Et on voit, quand on voit ce que l'ordonnateur du repas dit aux mariés, au verset 10, en général, on sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, on leur donne de l'ordinaire. Mais toi, tu as fait dans l'autre sens. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le vin que Jésus a fait est mieux, bien mieux que le vin qui a déjà été servi. C'est-à-dire, Jésus a fait non pas simplement un vin de table, mais un grand cru. Alors, c'est assez facile de comprendre ce que Jésus a fait là. Mais ce n'est pas si évident de saisir le sens de ce miracle-là. Qu'est-ce qu'on doit comprendre du fait que Jésus a changé l'eau en vin? Les gens sont venus à toutes sortes de conclusions différentes, mais comment peut-on savoir ce que Jésus voulait montrer par ce miracle? Je crois que Jean nous donne un indice au verset 11. Il écrit « C'est là le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Cela se passa à Cana en Galilée. Il révéla ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Plusieurs choses dans ce petit verset. Jean appelle ce miracle un signe. Un signe. Et les signes signalent quelque chose. Les signes signifient quelque chose. Et Jean écrit 7 signes dans son évangile. Et à la fin, il dit, ces signes sont écrits pour que vous puissiez croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Donc si ces signes sont des miracles, c'est des démonstrations, manifestations d'une puissance surnaturelle qui montre que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu. Et changez-le en vin, c'est le premier de ces signes. Les Juifs attendaient un Messie, un roi sauveur, et les Écritures décrivaient ce qui allait se passer quand ce Messie arriverait. Dieu allait restaurer son peuple et il y aura la paix, la prospérité, la joie. Et c'était ce moment de la venue du Messie était décrit dans des termes très concrets, très terre à terre. Alors, je vais vous mettre juste 2 textes de l'Ancien Testament qui en parlent. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète, nous lisons, le Seigneur des armées célestes préparera lui-même pour tous les peuples là sur cette montagne, un festin de vin vieux et de mets succulents, des mets tout pleins de moelle, arrosés de vin vieux et dûment clarifié. Le Seigneur Dieu lui-même va préparer, va inviter tous les gens à une fête avec du bon vin, mais de très bon vin. Et le livre d'Amos, chapitre 9, verset 13, « Voici venez des jours, l'Éternel le déclare, où celui qui laboure suivra de près le moissonneur, où le vendangeur suivra celui qui sème. Le vin nouveau ruissela de toutes les montagnes, de toutes les collines, il coulera à flots. » Il y aura du vin, mais des torrents, du vin en abondance. Quand le Messie viendra, dit l'Écriture, il y aura de très bon vin, et beaucoup. Dieu va faire la fête, et ce sera glorieux. Donc Jésus, là, il fait plus que simplement dépanner. Il montre qu'il est ce Messie qui va instaurer cet âge d'or où il y aura la joie et la fête. Et ça a l'air super, n'est-ce pas? Qui n'aimerait pas suivre un tel Messie? Est-ce que ça veut dire que Jésus et ses disciples vont passer tout leur temps à faire la fête, à manger et boire? Est-ce que c'est ça la vie que Jésus promet? Il y a deux petits indices dans l'histoire que avant la gloire, il y aura la souffrance. Qu'est-ce qu'on voit ici? Première chose, la présence de la mère de Jésus. La mère de Jésus, Marie, elle n'apparaît que 2 fois dans cet évangile. Ici, et à la fin, au pied de la croix. 2 fois où on voit Marie, ici, et quand Jésus meurt. Et deuxième chose, Jésus dit au verset 4, « Mon heure n'est pas encore venue. » Il fait allusion à sa mort, parce que dans l'évangile de Jean, quand j'ai dit « mon heure », c'est l'heure de sa souffrance et de sa mort. Plusieurs fois, on dit non. Son heure n'était pas encore venue. Son heure n'était pas encore venue. Et puis à la fin, l'heure est venue, dit Jésus, au moment où il va mourir. Donc bien que Jésus donne un signe de cet âge glorieux qui va venir, d'abord, il doit donner sa vie à la croix. Il y aura la souffrance avant la joie et la fête. Les gens qui font de la publicité sont très futés dans la manière dont ils nous font rêver, ils nous font vouloir ces choses qui sont à vendre. Je me souviens d'être allé au cinéma il y a quelques années de cela, et j'ai vu une publicité pour des voitures BMW. Et au lieu de parler de la puissance du moteur ou le confort des sièges, en fait, la publicité a fait l'éloge de la joie. La joie est ce que nous sommes et ce qui nous motive chaque jour. La joie nous inspire. Elle donne à l'avenir un nouveau visage. La joie ne connaît pas de frontières, ni dans le temps, ni dans l'espace. La joie est une histoire sans fin que chacun à sa manière réinvente sans cesse. Chez BMW, nous fabriquons plus que des voitures. Nous crions de la joie. Mais là, la pub, c'était joyeuse. Il y avait plein de gens qui étaient fous de joie au volant. Et ça m'a entraîné dans cette émotion forte. Et je me suis dit, ah bah oui, je veux cette joie. Mais qui ne veut pas cette joie-là? Mais selon la publicité, si vous voulez cette joie, il suffit d'avoir la bonne voiture. Jésus ne veut pas nous vendre quoi que ce soit, mais il nous montre simplement que dans son royaume, il y a de la joie d'une communion restaurée avec Dieu. Le royaume de Dieu sera comme cette fête de noces. Alors qu'est-ce que ce miracle change pour nous ? Il est d'abord une preuve que Jésus est bien le Messie, le Fils de Dieu. Qui d'autre pouvait changer l'eau en vin? Mais vous vous rendez compte de ce que cela implique? Ça demande pas moins que la puissance du Créateur lui-même. Les disciples ont vu, ils ont cru en lui. Et vous? Êtes-vous convaincu? Et le fait que Jésus a choisi de faire ce miracle, c'est aussi un signe de ce que ça va faire, vivre dans son royaume, vivre avec Jésus comme roi, vivre sous son autorité. Ce ne sera pas ennuyant ou monotone, mais débordant de joie. Parfois, quand on imagine le paradis, qu'est-ce que ça va être? On a une idée un peu fade qui ne donne pas forcément envie. Je me souviens d'un pasteur qui disait, quand il était petit, il imaginait le paradis comme un culte à l'église qui durait jusque dans l'éternité. Et lui, il était là sur un banc. Il dit, est-ce que tu vas aller au paradis? Mais non! Mais parfois, nos idées du paradis, la vie dans le royaume, ne donnent pas envie. Alors que la Bible décrit dans des termes très concrets, très physiques, c'est comparé à une fête de noces. La célébration, la joie, la vie dans le royaume est très bonne. C'est la meilleure, parce que nous serons avec Dieu, la source de toutes bonnes choses. Et rien ne viendra nous enlever cette joie parfaite. Donc, Jésus le Messie est venu apporter la joie. C'est la première chose que nous voyons. Et la deuxième chose, Jésus le Messie est venu apporter le jugement, la purification du temple. Jean dit, verset 13, la Pâque des Juifs était proche. La Pâque, c'était la grande fête religieuse où tous les Juifs étaient censés venir à Jérusalem. Et donc la ville aurait été bondée de gens. Et le temple, c'était le centre de la vie religieuse, vraiment le lieu central à ce moment-là. Et alors j'ai trouvé une image du temple à Jérusalem. C'est une reconstruction. Juste pour vous donner une idée, quand on allait dans le temple, il y avait d'abord ce grand parvis, ce grand cours du temple où tout le monde pouvait aller. Et puis il y avait une barrière. Alors, je ne sais pas si vous voyez ici cette ligne-là. Une barrière. Et il y avait des signes sur cette barrière marquée, voilà. C'était que les Juifs qui ont le droit de franchir cette barrière, d'aller plus loin. Sous peine de mort. D'accord ? Si tu n'étais pas juif, tu ne pouvais pas aller plus loin que cette barrière. Tu ne pouvais pas entrer dans ce lieu milieu. Mais ici, il y avait voilà, plein de gens. Et là, il y avait des gens qui vendaient des animaux pour les sacrifices. Donc des bœufs, des brebis, des pigeons. Si on voulait faire un sacrifice au temple, on achetait un animal là. Et puisqu'à l'époque, il n'y avait pas une monnaie unique, il y avait plusieurs types de pièces d'argent, il y avait des changeurs d'argent qui pouvaient vous vendre les pièces nécessaires pour acheter les animaux pour faire le sacrifice. Et bien sûr, ces changeurs d'argent, ils profitaient un petit peu, voire beaucoup. Et Jésus, quand il voit cela, il a une réaction très forte. Alors, la Bible nous dit que Jésus est sans péché. Donc, ce que nous voyons ici, ce n'est pas un manque de maîtrise de soi. Ce n'est pas une faille de caractère. Ce n'est pas Jésus qui craque, qui pète les plombs. Non, c'est une sainte colère qui monte en lui. Et il ne supporte plus ce qu'il voit. Il doit les chasser. Et ce qu'il fait, ce n'est pas disproportionné, mais une réponse juste à un mal profond. Mais est-ce que vous imaginez ici dans la cour du temple, le bruit, le chaos, la surprise, quand Jésus il fait ce fouet, il commence à chasser les gens, à fouetter les animaux, à renverser les tables, il y a des pièces qui volent de partout. Ôtez cela d'ici, c'est la maison de mon père, n'en faites pas une maison de commerce. Jésus n'est pas simplement en colère contre les marchands et les changeurs d'argent, mais avec tout ce système où ce lieu qui devait être consacré à l'adoration de Dieu, ici dans ce lieu, les gens font le commerce comme au marché. Jésus n'est pas contre le commerce, mais pour lui, la présence des marchands dans le temple, c'est un signe qu'il n'y a pas de vrai respect pour Dieu. Il y a une hypocrisie terrible où les gens continuent à faire les formes, les rituels de religion, les sacrifices, etc., mais leur cœur n'y est plus. Et Jésus ne peut pas le supporter. Si on regarde dans l'Ancien Testament, il y a un passage dans le livre du prophète Malachie qui parle de quelqu'un qui viendra purifier le temple. Il va purifier le culte des Israélites. Malachie 3, 1 à 3. Et soudain, il viendra pour entrer dans son temple, le Seigneur que vous attendez. Le Seigneur, il va entrer dans son temple. Mais qui supportera le jour de sa venue? Ou qui tiendra quand il apparaîtra? Car il sera semblable au brasier du fondeur, au savon des blanchisseurs. Il siégera pour fondre et épurer l'argent. Oui, les descendants de Lévi, donc ceux qui servent au temple, il les purifiera, il les affinera comme l'or et l'argent. Et ils seront alors pour l'Éternel des hommes qui lui présenteront l'offrande dans les règles. Le Seigneur est venu à son temple pour faire le ménage. Et cela n'est pas du tout confortable. Jésus met le doigt sur ce qui ne va pas dans le culte d'Israël, dans leur adoration de Dieu. Il est le Messie qui vient juger le cœur des gens. Et bien sûr, les autorités, les responsables des Juifs n'aiment pas du tout la manière dont Jésus se comporte. Ils ne pensent pas que Jésus a le droit de donner des ordres, de faire un tel acte, d'agir comme si c'était lui le maître du temple. C'est lui qui pouvait chasser les marchands comme ça. Et donc, quand au verset 18, il demande « Mais quel signe miraculeux peux-tu nous montrer pour prouver que tu as le droit d'agir ainsi ?» En fait, ils disent « Mais tu te prends pour qui ?» Oui, si tu penses que tu es quelqu'un de spécial avec autant d'autorité, mais tu as l'intérêt de le prouver, de montrer par un signe, par un miracle. Et la réponse de Jésus, c'est assez étrange. Verset 19, « Démolissez ce temple, leur répondit Jésus, et en 3 jours, je le relèverai. » Jésus se tient devant ce temple. Il parle de ce parti-là, le grand bâtiment au milieu, qui contient le lieu saint et le saint des saints, derrière ce rideau. Il parle de ce temple-là. Il dit, mais démolissez ce temple, et en 3 jours, je relèverai. Il est devant ce temple-là. Les Juifs le prennent au premier degré. Alors, ce temple a déjà été détruit par le passé. Ils disent, mais quoi, tu parles des pierres? Tu parles de ce bâtiment? Mais Jésus, il dit, c'est ma résurrection qui prouvera qui je suis. Vous allez détruire mon corps. Mais je vais me relever le troisième jour. Et plus que cela, Jésus leur dit, je suis le vrai temple. Je suis le lieu où Dieu est présent pour régner, pour sauver et pour juger. J'ai entendu parler de maître d'école. Il est arrivé dans une école primaire et il voyait les choses, les dysfonctionnements, les choses qui ne tournaient pas rond, les choses qui n'allaient pas dans cette école. En fait, il y avait plusieurs élèves dont leur comportement faisait que c'était impossible de les avoir en classe. Ils n'étaient pas aptes à être en classe. Et ce n'étaient pas des élèves de CP, c'était des élèves qui étaient déjà dans cette école depuis plusieurs années. Il dit, mais il demandait, mais vous n'avez rien fait pour ces enfants? Et lui, elle a fait des démarches, il a signalé auprès de l'inspection académique, bah, il y a tel enfant qui a un comportement ça ne va pas. Il faut faire quelque chose. Et à cause de ce qu'il a fait, bah, les autres profs ne l'aimaient pas du tout. Le directeur ne l'aimait pas du tout. À un tel point que les autres profs et le directeur ont dit des choses sur lui pour que les parents soient contre ce professeur. Et le résultat final, c'était qu'à la fin de l'année, il a dû quitter l'école. En faisant ce qui était juste, en mettant le doigt là où ça n'allait pas. Ben, ça a fait mal. C'était pas confortable et les gens n'ont pas aimé cela. Ils ont préféré dire à ce monsieur, ben, dégage. Dégage. Jésus n'est pas venu simplement pour caresser les gens dans le sens des poils, pour dire des choses rassurantes, pour dire que tout va bien. Jésus est venu dire la vérité, exposer le mal et l'hypocrisie. Et cela a dérangé les gens. Les chefs religieux ne l'aimaient pas le fait que Jésus remet en question le fonctionnement du temple. Jésus n'était pas un messie qui était conforme à leurs attentes. Nous aimons l'idée que Jésus vient apporter la joie. Ça, c'est sympathique. Ça, c'est chouette. Mais nous ne l'aimons pas autant l'idée d'un Jésus qui vient faire le ménage dans notre vie, d'exposer notre hypocrisie, de montrer ce qui ne va pas chez nous, dans nos habitudes, dans notre attitude vis-à-vis de Dieu. Cela nous dérange. On préférerait un Jésus qui ne dirait rien, qui pourrait nous déranger. Un Jésus qui approuverait de tout ce que l'on fait. Mais si Jésus est le Seigneur, s'il est le Messie, il ne va pas laisser passer le mal. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si Jésus devait venir dans le parvis, dans la cour, dans notre cœur, qu'est-ce qu'il verrait qui devait partir? Dans nos pensées, dans nos paroles, nos attitudes vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres. Qu'est-ce que Jésus voulait purifier? Alors, heureusement, aujourd'hui, Jésus ne vient pas avec un fouet en colère, de manière violente. C'est Jésus lui-même qui a pris la juste colère de Dieu contre le péché sur lui-même à la croix, pour que nous puissions en être épargnés. Aujourd'hui, il nous vient avec amour, mais il nous veut purifier pour que nos vies soient agréables à Dieu. Mais sommes-nous prêts à être remis en question? Est-ce que nous sommes prêts à laisser Jésus régner et juger ce qui ne va pas chez nous? Donc, deux épisodes très contrastés. Nous voyons ici deux aspects de la mission de Jésus, le Messie. Jésus le Messie est venu apporter la joie. Il est venu aussi apporter le jugement. Prenons un moment dans la prière. Père, merci car tu nous montre ici dans l'Écriture Jésus comme il est vraiment. Non pas le Jésus que nous imaginons ou le Jésus que nous aimerions avoir, mais le vrai Jésus comme il est. Merci quand nous voyons des aspects différents de sa mission, de son caractère. Et nous te prions, Père, que tu nous aides à accepter ce Jésus-là, le Jésus que nous voyons dans la Bible, tel qu'il est, le Fils de Dieu, le Messie qui est venu apporter la joie de cette communion restaurée avec toi. Merci pour ce signe de ce que va être ton royaume quand il sera pleinement accompli et instauré. Et merci aussi pour ce que nous voyons de Jésus, son attitude face à l'hypocrisie, face au péché. Jésus ne veut pas simplement dire « Oui, oui, tout va bien. » Jésus agit selon la vérité. Donne-nous d'accepter qu'il aura aussi des choses à nous dire sur ce plan-là. Et merci car ce Jésus, il est le meilleur roi qui soit. Il n'y a personne qui pourrait régner sur nous d'une meilleure façon que lui. Et il fait bon vivre dans son royaume. Merci Père. Amen.